vous plaire, j'y fais ce que j'ai à faire. Je prends mon stick, je vais taire les pronostics. Force, rage, dextérité, ici j'attaque toutes mes insécurités.
Un slammer, beatboxer et créateur sonore au lycée d'Armentières. En effet, Forbon N. Zaki Mouena avait répondu à quelques questions des élèves de seconde option art du son du lycée Paul Hazard d'Armentières. Une rencontre dans le cadre d'ateliers radio du dispositif PEPS initié par le Grand Mix de Tourcoing. D'origine congolaise, l'artiste parle de son parcours atypique au micro de Marina et Anna.
Vous faites du beatbox, vous faites du rap, vous faites de la création sonore et des performances. Du coup, comment on doit vous qualifier ?
Musicien, simplement. Du coup, j'ai la chance de maîtriser pas mal de choses. Donc après, en fonction des créations dans lesquelles je m'inscris, soit dans le théâtre, soit dans des groupes de musique, ma source d'expression première et ma manière d'exprimer, c'est toujours par la musique. Donc musicien, tout simplement.
Comment est né votre intérêt pour le beatbox ?
Le beatbox, j'en ai fait, ça fait combien de temps que j'en fais ? Ça va faire 6 ans que j'en fais, ça va faire 6-7 ans. Je l'ai fait vraiment par hasard. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai jamais fait d'école de musique ou j'ai appris beaucoup par moi-même. Dans ce cheminement-là, je faisais ce qu'on appelait des soirées slam. Les soirées de slam de poésie, en fait, c'est des soirées en fait, qui s'organisent en général dans des bars. Il y a plusieurs poètes qui se retrouvent pour en fait déclamer leurs textes quoi. Et donc à la base il y a plusieurs formats de soirées slam. Il y a des soirées qui sont plus compétitives. D'ailleurs c'est le titre originel, le nom originel de la discipline, ça vient de là. Slam, ça vient de l'anglais qui veut dire schlem, qui veut dire tournoi. C'est des tournois de poésie. Et c'est des poètes en fait qui se rencontraient pour se défier avec des règles bien précises. Et à la fin de la soirée, on désignait un gagnant. Et c'est ce gagnant-là qui, en fonction de la soirée, du prix de la soirée, remportait soit un prix, soit voilà. Et dans ces soirées-là que je faisais beaucoup, je chantais spécifiquement. En chantant, je me suis rendu compte que c'était pas assez pour moi de juste me baser que sur le texte. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus rythmé, d'accompagnement. Comme dans ces soirées-là, on n'a pas le droit d'être accompagné par une guitare, on n'a pas le droit d'accessoires. Du coup, pour moi, c'était l'idée, c'était de pouvoir commencer à apprendre le beatbox. Mais le but premier pour moi, c'était vraiment pas d'en faire une discipline, c'était vraiment pas d'en faire mon métier. Et au final, en fait, j'y ai pris goût. Et puis en travaillant, c'est mon métier maintenant, quoi.
Pendant vos prestations, est-ce qu'il vous arrive d'être essoufflé à force de trop parler ?
Non. C'est... Après, je suis essoufflé pas parce que j'ai trop parlé, mais je suis essoufflé parce que c'est pas que... quand je suis sur scène, c'est pas que... la performance, elle est pas que au niveau de l'air aussi, elle est au niveau de l'énergie que je déploie, de comment je me déplace sur scène et tout ça. Donc c'est une performance globale, quoi. C'est même du sport. Je peux me retrouver essoufflé par rapport à ça, par rapport à toute l'énergie que j'ai déployée en général, mais pas spécifiquement par rapport à la gestion de l'air. C'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis, parce que le beatbox, c'est une gestion de l'air, quoi. Moi, ce que je le dis à chaque fois quand j'apprends du beatbox aux gens, c'est 70% de respiration et 30% du reste, quoi. Si tu sais respirer, tu sais beatboxer. Et ça, c'est essentiel, en fait, dans le beatbox. C'est vraiment une gestion de l'air avant tout. La maîtrise de l'air vient de la maîtrise du rythme, et après du rythme, il y a la musicalité, et après, une fois qu'on a tout ça, on peut commencer vraiment à s'amuser. Mais du coup, non, en général, je ne suis pas essoufflé que pour ça. Je ne suis pas essoufflé que parce que j'ai trop parlé, mais parce que j'ai beaucoup bossé, quoi.
Appelez-le mon nègre, mon oasis, source retrouvée du désert, quand la récolte est maigre, en moi il intègre mes lettres de noblesse, le loyal l'intègre, quoi qu'il arrive, il suit son altesse, nègre, mon oasis, source retrouvée du désert, quand la récolte est maigre, en moi il intègre mes lettres de noblesse, le loyal l'intègre. Nègre.
Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire de la percussion corporelle, d'apprendre à faire du step parce que ça m'éclate beaucoup. Donc, du coup, tous les matins, dès que je peux, je sors et puis j'essaie de faire des steps, je regarde des vidéos et tout ça. Voilà, du step, du game boots, vous savez ce que c'est, tout ça ? Non ? Alors, c'est des percussions qui viennent d'Afrique du Sud. Et en fait, le game boots, c'est des mineurs sud-africains qui étaient principalement noirs, qui travaillaient dans les mines de charbon là-bas et qui en fait ont utilisé ça, le game boots. Donc c'est des percussions qu'ils font avec leurs bottes, justement, avec des bottes de travail. Et c'était leur manière de communiquer dans les galeries. Et donc, c'est à la fois un mélange de danse traditionnelle et de percussion. Donc, ils travaillaient dans des conditions assez difficiles, en fait. C'était clairement de l'esclavage. Hein. Donc, voilà, donc il y avait des codes bien précis qui existent encore aujourd'hui, où, en fait, voilà, si on tape deux, ça veut dire qu'on est encore vivant, et voilà, et etc. Et bizarrement, en fait, c'était quelque chose qui leur donnait de la force. Au fur et à mesure, ça leur donnait tellement de la force qu'au final, ils le faisaient, ça en devient une habitude, et au final, ça devient un mode de vie, quoi. Ça devient un mode de pensée, ça devient une philosophie en tant que telle, quoi. Et du coup, leurs colons, ils voyaient ça, ils remarquaient qu'ils étaient beaucoup plus productifs. Et donc, du coup, ils leur ont laissé, en fait, la permission de pouvoir continuer à faire ça. Et donc, du coup, c'était totalement accepté. Et là, du coup, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils faisaient même des rencontres, en fait, entre plusieurs mineurs de chaque pays. Des rencontres de Game Woods où, en fait, voilà, comme ce que je vous expliquais après par rapport au slam, hein, c'est des battles de groupes qui faisaient, en fait, de la percussion avec leurs bottes, quoi. Game Woods, quoi. Tout ça s'est étendu et c'est devenu une vraie discipline à part entière avec des vrais groupes, des vrais artistes qui travaillent de cette façon. Dans un des spectacles sur lesquels je travaille, bah, du coup, on m'a appris à faire ça. Et moi, ça m'éclate à mort. Et puis c'est super, quoi. Ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien de ressentir des percussions, du rythme en nous. Ça nous réveille, ça nous donne de la pêche pour continuer. Et ça, je trouve ça cool. Et je me dis que plus tard, peut-être dans un an ou deux, si j'arrive à maîtriser ça, peut-être que je pourrais, je sais pas, peut-être que je pourrais en faire un truc.
Au lycée Paul Hazard d'Armentières, Forbon N. Zakimwena fait une démonstration de percussion corporelle.
Je vais essayer d'aller de plus en plus vite. Ouais. Voilà, ça m'éclate beaucoup. C'est mon truc en ce moment. Je trouve ça vraiment cool.
Donc, votre art, ben, il est encore vraiment. Est-ce qu'il est encore vraiment associé aux cultures urbaines ou tend-il à devenir parfois quelque chose d'académique ?
Ben, ouais, ça reste urbain dans le sens où, en fait, où ce que j'apprends, je l'apprends dans la vie, en fait. Une culture urbaine, ça ne se résume pas qu'au rap ou des choses comme ça. Pour moi, l'urbain, ça se résume à ce qui existe dans la cité, dans la ville, enfin, dans le sens romain du terme, en fait. C'est, je veux dire, je peux très bien, en fait, me prendre d'émotion pour une mémé qui chante Edith Piaf dans la rue et je vais trouver ça juste super. Et en fait, elle fait partie de la cité, en fait. Elle fait partie de l'urbanisme, enfin de l'urbanité, en fait. Voilà, c'est une mémé qui chante Edith Piaf dans la rue et qui, dans la rue, quoi, dans une ville, dans Armentières, quoi. Pour moi, c'est ça, une culture urbaine. C'est les choses qui sont, à contrario, qui n'existe pas dans les écoles, quoi. Qui est de l'ordre du spontané, du vivant, de ce qui existe là maintenant et pas de ce qui s'apprend ou de ce qui se théorise, quoi.
Vous avez été invité par des collectivités pour participer à des résidences artistiques. Pourquoi vous avez accepté de faire ça? Qu'est-ce que vous en retenez?
Ça dépend des projets. Bah, en général, je ne vais pas me cacher, hein, c'est pour de l'argent, c'est pour gagner ma vie, c'est mon métier, donc du coup, forcément, ce qui me permet aussi d'accepter certaines choses au-delà de l'aspect financier, c'est aussi si ces projets me permettent de pouvoir en fait avoir la totale liberté de créer, la totale liberté de proposer quelque chose, ce que je suis, où je peux être vraiment à l'initiative d'une impulsion, d'un projet général. C'est un dispositif qui s'appelle le CLEA, le Contrat Local d'Éducation Artistique. Par exemple, il y a deux ans, j'ai travaillé en fait dans toute une communauté de communes à côté de Douai, cœur d'Ostrevent. J'ai accepté parce que je sentais que c'était possible de proposer des choses.
Vous n'êtes pas tellement présent sur Internet. On a eu un peu de mal à trouver des renseignements sur vous. Du coup, on aimerait savoir si vous êtes timide ou vous êtes allergique aux réseaux sociaux ou des choses comme ça.
Non, je ne suis pas allergique aux réseaux sociaux. Non, j'utilise ça pas mal hein, pour communiquer et tout. Après, c'est un outil pas facile. En tout cas, pour moi, c'est un outil qui est pas facile à maîtriser Parce que, d'une, il faut connaître les réseaux, il faut bien les connaître hein, pour partager quelque chose et pour que ce partage il soit vraiment vu par des centaines, des milliers, des millions de gens. C'est des stratégies, c'est aussi le contenu aussi, ce que tu proposes aussi, qui fait que les gens, ça les intéressera ou pas. Donc déjà, rien que ça, c'est quelque chose que moi, je ne suis pas très fort à ça. Donc forcément, j'ai des choses sur Internet, hein, mais... elles font partie des pages 12, 20, parce qu'elles sont pas beaucoup vues, et parce qu'elles sont pas beaucoup partagées, tout ça. Après, je sais pas si c'est parce qu'elles sont vraiment nazes ou si parce que, voilà, stratégiquement, j'arrive pas à bien les partager dans les bons réseaux et tout. Donc, du coup, ça explique ça. Et puis, d'autre part, moi, ça me dérange pas non plus d'avoir tant d'expositions que ça sur Internet. Moi, j'aime bien le mystère, j'aime bien quand les gens vont chercher l'information et pas que ce soit tout cuit, tout prêt. C'est un équilibre à trouver, en fait, entre le fait d'être à la fois présent et le fait de ne pas être totalement dépendant ou se sentir contaminé ou par ça, quoi.
Ténor artificié face à lui, l'une est divisée. Présent ultra phénoménaux, il n'offre que des bouquets finaux. Pas toute cette herbe enchante, lui y résiste, le paradis existe. Quand le chaos chante.
C'était le slammer, beatboxer, créateur sonore lillois Forbon N. Zakemouena qui était au lycée Paul Hazard d'Armentières pour répondre aux questions des élèves de seconde option art du son. L'artiste organise des slams, concerts et spectacles dans toute la région Hauts-de-France. Un reportage de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.